Bonjour tout le monde. Dimanche prochain, les Français qui se déplaceront pour aller voter au second tour des élections législatives éliront 577 députés qui siégeront pour les 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. Un second tour a priori sans suspense, puisque La République En Marche, le mouvement ou le parti du nouveau président Emmanuel Macron devrait obtenir une majorité écrasante avec peut-être près de 450 députés d'après les estimations les plus hautes. La Corrèze, elle, ne sera représentée que par 2 députés, un homme pour la circonscription de Tulle-Ussel et une femme pour la circonscription de Brive-la-Gaillarde. Nous recevons aujourd'hui Christophe Géréti, maire de Nave, urbaniste, mais surtout aujourd'hui candidat aux élections législatives pour La République En Marche sur la circonscription de Tulle-Ussel. Bonjour Christophe Géréti.
Bonjour.
Christophe Géréti, vous êtes maire de Nave, commune limitrophe de Tulle, une commune de 2384 habitants au dernier recensement. Vous êtes arrivé en tête du premier tour des législatives avec 32,51% des voix. Pour ce second tour des élections législatives, vous êtes en ballotage favorable face au maire PS de Tulle, Bernard Combes, qui a lui recueilli 17,92% des voix. Vous êtes tantôt présenté comme centriste ou divers droite. Comment vous vous définissez politiquement ?
Politiquement, moi je me définis comme En Marche aujourd'hui. Effectivement, je n'ai jamais eu de parti politique, je n'ai jamais eu de carte, je n'ai jamais eu d'investiture spécifique par un parti. J'ai toujours revendiqué mon impartisanisme, ça a souvent été redit et évoqué par les journalistes, parce que je considère que la logique voulait qu'aujourd'hui tous les modérés puissent se rassembler, ce qui se passe aujourd'hui. Donc je me considère comme quelqu'un qui est assez libre. Effectivement, j'avais été catégorisé, on va dire ça comme ça, divers droite lors de mon élection, puisque j'avais battu un maire PS à l'époque.
Alors j'ai lu quelque part, je crois, dans la montagne, que vous avez eu un grand-père élu communiste, un père, je ne sais pas s'il a été élu, mais à gauche.
Oui.
Vous êtes divers droite. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution familiale ?
Bon, c'est pas une évolution familiale, c'est une évolution peut-être sociétale. Aujourd'hui, quand votre grand-père était élu communiste, c'était une autre période. Quand mon père était élu plutôt à gauche, c'était une liste déjà globale à Vigeois, hein, je le rappelle, sur un fief bien connu. Aujourd'hui, moi j'ai été élu sur une liste qui n'avait pas d'attache avec un parti. Mais le fait d'avoir battu effectivement un maire PS encarté fait qu'aujourd'hui j'ai été caractérisé sur cet élément-là. Ensuite aussi parce que j'avais soutenu Alain Juppé, il faut le souligner, pendant la pré-primaire, puisque c'était le seul qui correspondait à l'époque avec son programme à la volonté de faire évoluer la France sur certains points.
Vous êtes candidat sur une circonscription à l'histoire politique chargée, voire même très chargée. Le pays d'Ussel est dans le haut lieu de la Chiraquie et Tulle, l'ancien fief de François Hollande. D'après vous, est-ce qu'il faut en finir avec cet héritage ou est-ce que vous en revendiquez une partie ? Comment vous vous positionnez par rapport à ces deux figures politiques que sont François Hollande et Jacques Chirac ?
Je me situe au milieu de ces deux figures politiques. Hein. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu la Chiraquie. Il y a eu la Hollandie, nous venons de le vivre. Maintenant, j'espère qu'il y aura En Marche avec Emmanuel Macron. On est sur une logique aujourd'hui de nos territoires où, effectivement, on va dire, la logique du Percueil qui avait été fait il y a des années est un petit peu reprise par En Marche, puisqu'on se retrouve en fait entre Chirac et Hollande, et peut-être qu'on va regrouper les deux d'ailleurs.
Votre mouvement La République En Marche a triomphé au premier tour. Est-ce que ça vous gêne si j'utilise le terme de triompher ?
Triompher est un grand mot, je sais qu'ils l'ont aussi marqué sur la presse écrite. Bien évidemment, c'est un score fleuve, c'est un score très important sur lequel moi, pour ma circonscription, je ne m'attendais pas. Après le triomphe, il n'est qu'à partir du moment où on gagne l'élection au deuxième tour. Toutefois, un triomphe, après derrière, il faudra avoir les actes. Et les actes seront un triomphe s'il y a réussite.
Alors peut-être un triomphe, en tout cas votre mouvement La République En Marche a gagné au premier tour dans un contexte de forte abstention, 45,6 sur la première circonscription de la Corrèze, c'est un peu moins que la moyenne nationale qui elle est aux environs de 51%. Est-ce que cette faible participation pourrait nuire à la légitimité de votre majorité et à l'acceptation ensuite de vos projets de réforme ?
Je crois que l'abstention, c'est un vaste sujet depuis des années. Aujourd'hui, depuis 2014, on a eu 6 élections. Donc ça explique aussi, on va dire, un ras-le-bol et la volonté de ne plus aller voir aux élections. Et puis, la deuxième chose, c'est que les élus politiques ont tendance à faire des grands discours et un peu moins à agir. Donc c'est un petit peu ces éléments-là qu'on souhaite revoir dans la prochaine mandature. Ensuite, la légitimité, elle sera celle qu'elle sera. Hein. De toute façon, les gens qui vont voter, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas voter, et du coup, ils ne votent pas et donnent le pouvoir à ceux qui ont été votés. Donc c'est ça la règle en France.
Édouard Philippe, le Premier ministre, a dit après le premier tour, la France est de retour, mais est-ce qu'on peut dire avec cette abstention record que les Français, eux, sont partis ?
Non, je pense pas. Les Français sont pas partis, ils sont toujours là. Je pense que justement, les campagnes électorales sont le moment pour les entendre, pour les écouter, et après pour comprendre et agir en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Donc non, il faut pas dire qu'ils sont partis. Effectivement, ils ont moins voté. Ça fait partie aujourd'hui d'une problématique de longue depuis 10 ans, hein, globalement. Et c'est peut-être aux élus politiques de les remettre justement sur la volonté civique et apporter les réponses pour qu'ils reviennent voter sur les prochaines élections.
Emmanuel Macron a mis très en avant le thème du renouveau en pensant que ça amènerait justement les gens aux urnes. Pour ce premier tour des législatives, le mouvement En Marche en fait fait 34%, mais avec une abstention de 50%, donc un tiers d'un Français sur deux, ce qui en réalité ramène le score à 16-17%. Est-ce que le pari est raté pour Emmanuel Macron ?
Le pari n'est pas raté, puisqu'on voit les partis du coup complètement s'effondrer, hein, les partis traditionnels. Après, le renouveau ne suffit pas. Il y a le renouveau sur les hommes, mais il faudra le renouveau des actes. C'est surtout ça, à mon avis, que les gens attendent. C'est pour ça qu'on a encore cette abstention. Et si le renouveau des actes est effectif, à ce moment-là, l'abstention sera, à mon avis, moindre.
Le renouveau des actes, le renouveau des hommes également, vous venez d'en parler. Parmi les futurs députés En Marche investis, on note une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles, catégorie dont vous faites vous-même partie, je rappelle que vous êtes urbaniste. Un seul ouvrier a été sélectionné pour représenter La République En Marche sur près de 500 candidats à ces élections législatives. Et quand on regarde de près les résultats du premier tour, on constate que ce sont surtout les cadres et les professions intellectuelles qui ont voté massivement pour En Marche. Comment vous expliquez le désintérêt des couches populaires pour votre mouvement ?
Les couches populaires, elles avaient traditionnellement leur vote. Aujourd'hui, je pense qu'elles ont des difficultés à trouver leur place au niveau politique. On le voit avec une dispersion des votes sur différents partis ou différents mouvements, hein, avec une grosse dispersion, ici par exemple 12 candidats, et on l'a vu que les votes étaient dispersés. Après, pour les accrocher, si on peut dire, sur notre parti, ça sera à nous d'aller les chercher, pour qu'ils comprennent que ce que nous allons faire sera positif, justement, pour la classe moyenne ou la classe modeste, ou ces électeurs-là qui se retrouvent pas aujourd'hui encore en marche, nous on devra aller les chercher pour qu'ils s'y retrouvent justement. Alors peut-être par les actes justement.
Le mouvement En Marche peut-il légitimement mettre en avant la société civile comme argument de campagne quand vous oubliez, je mets des guillemets, une telle part de la société française dans vos candidats ?
Un oubli, c'est toujours difficile à dire si c'est un oubli. Après, il faut la volonté des gens aussi d'y aller et de se présenter, ce qui est toujours difficile quand on travaille. Faire la représentation de la société civile, effectivement, il y a certaines franges ou certaines catégories socio-professionnelles qui seront moins représentées, comme aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que les catégories socio-professionnelles qui représentent l'Assemblée nationale sont encore plus limitées, si je puis dire, puisque de nombreux sont des élus, on va dire, historiques, et d'autres sont issus aussi de la logique du fonctionnariat public.
Qu'est-ce que vous pensez de la composition du gouvernement, par exemple ? Le dernier ministre ouvrier, c'était Guesso, sous le gouvernement Jospin. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas une personne, un représentant de la classe ouvrière au gouvernement, plutôt que des cadres et des personnes intellectuelles ?
Le regret, je trouve que ce gouvernement est quand même bien conçu. On a été chercher la société, les sensibilités sur différents partis, sur différents objectifs politiques. Je trouve qu'il est bien composé. Après, pour cette représentation-là, à l'époque, M. Guesso était quand même connu et avait un petit parcours professionnel qui lui a permis de devenir ministre. Donc c'est aussi ça. On peut, je pense, ne pas tout de suite devenir l'un ou l'autre, mais il faut une partie d'expérience. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas trouvé ou qu'ils n'ont pas eu les personnalités à l'exemple de M. Guesso à l'époque.
Les projections pour le second tour prévoient près de 450 sièges dans les estimations les plus hautes pour votre mouvement, une domination jamais vue sous la Ve République. Votre ancien mentor, c'est peut-être pas le terme, Alain Juppé, a appelé à voter pour éviter une assemblée monochrome. Les autres partis mettent en garde contre le risque démocratique d'une telle surreprésentation. Est-ce que vous comprenez ces craintes d'une part, et d'autre part, pourquoi serait-il selon vous nécessaire d'élire un député En Marche de plus, à savoir vous ?
Nous, on comprend ces craintes. Après, moi, je dis aussi qu'on est de sensibilités différentes dans la composition d'En Marche, ce qui va permettre d'avoir, à mon avis, une vision commune sur beaucoup de problématiques ou beaucoup de sujets et chantiers qu'il va falloir œuvrer. Après, par rapport aux positions de chacun, on sait très bien que ça soit les partis traditionnels, les uns et les autres vont se positionner sur ce cadre-là, puisqu'ils n'ont pas d'autre cadre et pas de projet à proposer. Donc, la seule solution pour évoquer justement le raz-de-marée potentiel de En Marche, c'est d'évoquer la possibilité qu'il y ait une assemblée assez monochrome. Après, sur le point de vue idéologique ou sensibilité, il y a une diversité qui est représentée dans En Marche et cette diversité aura à faire preuve aussi d'intelligence pour se regrouper, se rassembler et agir ensemble.
Et vous personnellement, Christophe Géréti, qu'est-ce que vous allez apporter à cette majorité si vous êtes élu ?
Bah, moi, l'objectif, il est clair. Hein. Moi, j'ai une expérience dans les collectivités territoriales et de bureaux d'études. Donc, j'ai une double expérience privée-publique qui permettra d'apporter une certaine vision. Et puis, j'ai une connaissance plutôt très intéressante du milieu territorial rural par mon parcours qui a été sur l'ensemble de la circonscription dans mes différentes professions et la connaissance complète des élus de toute sensibilité politique avec un apport aussi par mon biais mon travail puisque je suis juriste et donc on sait très bien la nécessité d'avoir une petite connaissance juridique pour élaborer les lois.
Les professions de foi des candidats En Marche laissent finalement peu de place aux candidats. En fait, il y a une photo d'Emmanuel Macron qui est en proportion un petit peu plus importante que celle du candidat. Le texte du recto est un texte signé Emmanuel Macron. Au dos, on trouve un petit texte signé de votre main en haut à gauche. On trouve aussi une citation de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, un texte d'Édouard Philippe. Est-ce que ce second tour des législatives, c'est pas une forme de présidentiel bis, à savoir qu'on vote plus pour Emmanuel Macron que finalement un candidat personnalisé comme vous pouvez l'être?
Non, il faut reconnaître qu'on vote depuis qu'on a les législatives après les présidentielles pour le président et la volonté de lui donner ou non les pouvoirs législatifs avec son gouvernement. Donc effectivement, sur la profession de foi, on a une grosse partie et une bonne partie par les photos aussi de présence d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, la nécessité aussi du pays, c'est de pouvoir être gouverné. Et donc effectivement, s'il n'a pas une législature à sa couleur, il aura du mal à gouverner et nous arriverons à l'immobilisme que tout le monde veut éviter quand même.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus d'investiture qui a fait que vous êtes candidat En Marche et comment vous avez été impliqué justement dans la rédaction et la création de ces professions de foi ?
Ouais, là, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier. Vous savez, j'avais soutenu Alain Juppé. Ensuite, des candidats se sont déclarés sur diverses positions. Mon nom est remonté à En Marche. Et après, il a fallu que moi, je décide si je déposais ou je déposais pas, puisqu'on m'a posé la question. Et après, la commission a décidé sur les critères que moi, j'ai pas accès et que j'ai pas lieu de connaître d'ailleurs. Ensuite, sur la profession de foi, on va dire nationale, globalement, on reprend les projets d'Emmanuel Macron de la présidentielle, donc il n'y a pas énormément de changements, ce qui fait que c'est les remontées essentiellement de la population, puisqu'il s'était appuyé sur des groupes de travail assez importants et sur des personnalités, et c'est comme ça qu'il avait construit son programme.
Quand vous dites que votre nom est remonté, c'est-à-dire que c'est le mouvement En Marche qui vous a contacté ou c'est l'inverse ?
Il y a eu une remontée interne de quelqu'un qui a fait remonter mon nom à En Marche à Paris, voilà, et après on a eu un contact avec En Marche pour discuter un petit peu, étant entendu que moi je ne prends pas des décisions sans connaître les choses et les évolutions et éventuellement les positions de chacun. Et après c'est moi qui ai déposé ma candidature effectivement.
Alors peut-être que vous pouvez nous dire qui vous avez rencontré et qu'est-ce que vous avez cherché à savoir en fait au moment de cette rencontre ?
Non, moi je voulais connaître si on était capable d'aboutir à le projet et le programme qui était évoqué et la volonté de rassembler les différentes sensibilités politiques. Moi c'était ma principale question parce que je considère qu'il est nécessaire aujourd'hui de rassembler l'ensemble des forces politiques et des bonnes volontés, on va les appeler comme ça, pour faire évoluer notre pays dans le bon sens et non pas avec brutalité mais dans le bon sens.
Vous parlez de rassemblement. La précédente assemblée a vu le parti majoritaire, le Parti Socialiste, se diviser avec un groupe de frondeurs qui n'ont pas voté certains projets de loi et qui ont même enquiquiné le gouvernement pendant un sacré bout de temps. Est-ce que vous vous réservez le droit de ne pas voter certains projets ou propositions de loi émanant du gouvernement ou de votre mouvement avec lesquels vous ne seriez pas d'accord ?
Sur les principaux éléments du projet, je suis assez d'accord. Après, il y aura les problématiques des territoires ruraux, où à ce moment-là, nous aurons peut-être des divergences de vues avec, bien évidemment, les territoires urbains et la majorité des députés. Le territoire rural reste qu'une particularité en termes d'aménagement du territoire, et c'est certainement là où des positions peuvent diverger avec des personnalités comme la mienne.
Un des premiers actes forts du gouvernement d'Édouard Philippe sera une nouvelle loi de travail. Vous serez appelé à voter une loi cadre. Mmh. Est-ce qu'il y a besoin de détricoter un peu plus le code du travail après la déjà très contestée loi travail adoptée au 49.3 en 2016 ?
Je crois qu'il faut approfondir le travail qui avait été fait, le concerter encore plus et permettre deux choses. La flexibilité du travail, ça tout le monde le sait, mais aussi le protectionnisme et définir un protectionnisme spécifique pour certains domaines ou pour certaines activités. Donc il y a des propositions qui sont faites, je ne vais pas commencer à les débattre. On aura peut-être l'occasion de se revoir sur ces sujets-là, puisque moi je prendrai position. Contrairement à d'autres, il faut prendre position à un moment donné. Mais effectivement, je pense que cette loi-là est une loi nécessaire à partir du moment où elle sera co-construite avec les représentants de chaque, salarié et patron. Voilà, à un moment donné, il faut aussi que tout le monde se mette autour de la table. Il y a les politiques, mais il y a aussi les instances qui doivent prendre part à ce débat. Et la co-construction, c'est ça aujourd'hui.
Sur le texte signé Emmanuel Macron qu'on trouve au recto de votre profession de foi, il parle de cette loi travail, il met en avant beaucoup la flexibilité, je crois qu'à aucun moment il ne parle de sécurité pour le salarié, il utilise même le terme de libération du travail. Alors est-ce que le travail est emprisonné ou est-ce qu'il est pris en otage et si oui par qui ou par quoi ?
Oui, après, c'est un terme, c'est un texte. Après, libéralisation du travail, il faudra voir ce qu'on met dans la loi. C'est toujours ça qui va le définir. Et le législateur et le gouvernement ont 3 mois pour le définir avec concertation, avec justement les organisations syndicales. Et je pense que même si on libère une partie du travail, il y aura une partie qui sera liée à la protection, puisque ça fait partie aussi des nécessités pour notre territoire. Et enfin, il y a aussi un élément qui est important, c'est le regroupement des délégués syndicaux, des CHSTC, des CE, parce que ça simplifiera le dialogue social. Et la simplification du dialogue social sera aussi une libéralisation de la discussion au sein de l'entreprise. Et ça, c'est important.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que sont les CHC pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas tous les acronymes ?
Oui, alors...
CE, c'est les comités d'entreprise.
Oui, comité hygiène, sécurité et travail, voilà. Donc c'est des représentations et en fait, à l'arrivée, on discute à peu près de toutes les mêmes choses dans les mêmes instances. Et c'est souvent les mêmes personnalités d'ailleurs qui les représentent. Donc c'est éviter et faciliter ce dialogue-là. Oui. Oui, on a tellement l'habitude d'utiliser les acronymes qu'on ne les connaît plus au bout d'un moment.
Non, les auditeurs ne connaissent pas forcément tous ces acronymes. Vous êtes le maire d'une petite commune de 2384 habitants, Naves, limitrophe de la préfecture Tulle. Les territoires ruraux n'ont cessé de perdre de l'influence à l'Assemblée nationale. Quelle sera votre action pour la ruralité et notamment la défense des services publics sur un territoire comme la Haute-Corrèze, un territoire à la fois ultra-rural et assez pauvre? Et quand je parle des services publics, je parle de l'accès aux soins, de l'école, des transports, de la disparition progressive des perceptions, des bureaux de poste.
Oui, ben voilà, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que nous, les députés de territoires ruraux, on aura un regard spécifique sur l'aménagement du territoire. On avait à une certaine époque ce qu'on appelait la DATAR ou des ministères dédiés. Aujourd'hui, un ministère a été créé, celui de la cohésion territoriale. Nous espérons, nous, les territoires ruraux, avoir cette entrée-là pour pouvoir défendre justement à la fois les services publics ou les services privés d'utilité publique, parce que ça existe aussi, afin de conserver le maximum d'éléments pour que la population puisse rester sur notre territoire et surtout y vivre.
Bernard Combes, votre adversaire à ce second tour des élections législatives, met en avant son ancrage et sa connaissance du terrain, du territoire, pour défendre justement la Haute-Corrèze et sa ruralité. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je pense que je la connais mieux que lui.
Est-ce que vous pouvez développer ce...
Sur la Haute-Corrèze, j'ai travaillé 5 ans à la ville du Sel. J'ai travaillé sur la reprise de l'abattoir. J'ai monté le premier dossier. J'étais là lorsqu'on a construit le marché au cadran. J'ai monté 2 zones d'activité. Donc, si vous voulez, le territoire haut-corrézien, j'en ai plus qu'une connaissance. J'ai habité 5 ans sur ce secteur-là. J'y ai joué aussi au football. Donc, je pense que le territoire corrézien, et ma suppléante le sait, et notamment haut-corrézien, j'ai une bonne connaissance du territoire, puisque moi, j'étais pas là pour faire les photos ou les inaugurations, mais j'étais là pour travailler les dossiers.
On parle de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires pendant le quinquennat à venir d'Emmanuel Macron. Sur la première circonscription de la Corrèze, celle sur laquelle vous êtes candidat, quels pourraient être les postes visés et quel impact ça aurait sur le territoire ?
Alors, je crois que sur nos territoires, ça sera peut-être ceux qui seront le moins visés parce que deux éléments. Certains sont protégés, on va dire, dans la logique d'Emmanuel Macron, la santé, les policiers et les gendarmes, ainsi que l'éducation. Donc, comme ce sont nos principaux pourvoyeurs de fonctionnaires sur le territoire d'État, il sera difficile d'en supprimer beaucoup d'autres dans les fonctions publiques d'État. Après, il y aura des mutualisations sur les fonctions publiques territoriales. Nous le faisons déjà au sein de l'agglomération de Tulle et des communes.
Est-ce donc que vous pouvez ça continuera. Ce qu'est la mutualisation.
La mutualisation, c'est-à-dire qu'on regroupe une compétence unique sur la communauté d'agglomération au lieu de l'avoir sur toutes les communes et on transfère le personnel, ce qui évite d'embaucher et ce qui permet de consolider les emplois. Donc, par définition, on mutualise aussi les services et on évite d'embaucher à chaque fois qu'il y en a un qui repart à la retraite. Donc c'est une mutualisation des services.
Là, on parle de services qui dépendent des communes. Pour ce qui est de l'accès aux soins, quelle sera votre action en fait en tant que député si jamais vous êtes élu dimanche ?
L'accès aux soins reste une difficulté. Enfin bon, quoi qu'on a quand même deux hôpitaux sur le territoire, voire trois avec celui de Bord. Aujourd'hui, celui du Sel est assez bien situé en termes d'aménagement du territoire, donc il a une large possibilité d'être conservé. Celui de Tulle, il faudra être attentif à son évolution et voir les coopérations qui pourront avoir lieu avec d'autres établissements ou avec des professionnels spécifiques. Donc voilà, nous on aura une attention toute particulière. On sait très bien que dans nos territoires vieillissants, si je puis me permettre le terme, il faudra conserver une action sanitaire et sociale de bon niveau.
Toujours sur la ruralité, j'évoquais cette formule de François Baroin qui mène la campagne pour les Républicains avec Bernard Combes tout à l'heure. François Baroin a récemment réclamé que quand on dépense 1 euro pour la ville, on dépense également 1 euro pour la ruralité. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule ? Est-ce que ça fait un point commun entre vous et François Baroin ?
C'est une phrase idéologique. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le concret. Un euro pour l'un, un euro pour l'autre. L'objet de dépenser un euro, c'est pour les projets, c'est pour la nécessité des services. C'est pas pour dépenser un euro. Et aujourd'hui, la gestion des collectivités ou la gestion de l'État, ça sera dépenser un euro utile, quel que soit le territoire.
Alors c'est quoi un euro utile pour le territoire rural ?
Un euro utile, c'est un euro qui peut être intégré dans l'aménagement du territoire, par exemple la voirie, ou un euro utile qui en conservant certains services publics. C'est ça les euros utiles. Les euros utiles, il faut qu'ils servent à la population. Il ne faut pas aller disperser les sommes et l'argent dont nous pouvons disposer sur différents projets qui ne pourraient pas non plus apporter une plus-value ou une constance dans le service public de nos territoires.
Est-ce que vous reviendrez un peu sur la dotation globale de fonctionnement qui est quand même injuste, à savoir que les villes sont mieux dotées que les petites villes de campagne. Et je rappelle que plus de 50% des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Est-ce qu'en tant que député, vous reviendrez sur ce problème ?
Oui, de toute façon, il y a des éléments qui n'ont pas été travaillés depuis des années. La dotation globale de fonctionnement est un dossier qui est sur la table depuis plusieurs années et dont personne n'a voulu prendre le soin de travailler ou d'œuvrer dessus. Je pense que cette mandature est dans l'obligation justement de réformer la dotation globale de fonctionnement et d'être clair avec les élus et avec la population.
Vous préconiseriez quelle direction ?
La justice et l'équité au niveau des collectivités et un principe de péréquation éventuelle entre les communes qui ont le plus de difficultés ou les collectivités qui ont le plus de difficultés et celles qui en ont beaucoup moins.
Si vous l'emportez dimanche et que vous faites votre entrée au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale, sur quel thème souhaitez-vous travailler en particulier et dans quelle commission vous aimeriez siéger ?
Moi, les deux thèmes qui m'ont toujours intéressé, c'est l'économie et puis l'enseignement. Donc c'est éventuellement les commissions ou les groupes de travail dans lesquels je souhaiterais travailler. Mais tous les groupes de travail peuvent être intéressants. Au vu de ma formation, il y en a d'autres aussi qui peuvent m'intéresser. Après, ces deux sujets-là sont quand même des priorités nationales.
Un sujet de priorité nationale, la France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis novembre 2015. Le journal Le Monde a révélé qu'un projet de loi s'apprête à faire passer dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence. De nombreuses personnalités politiques, du monde judiciaire, des ONG s'en sont émues. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un certain paradoxe pour un mouvement prônant le renouveau de la démocratie à entamer une mandature par la légalisation d'un ensemble de mesures clairement dérogatoires à l'état de droit ? Qu'est-ce que vous savez de ce projet de loi et est-ce que vous avez l'intention de le voter ?
Alors, très honnêtement, c'est pas un projet de loi sur lequel je me suis beaucoup penché. En revanche, aujourd'hui, nous sommes dans une situation complexe et je pense aussi que les élus politiques doivent travailler sur ce domaine-là, tout en prenant un petit peu de temps de réflexion parce que nous sommes dans un État quand même français qui est assez démocrate, assez libre et il faut faire attention à ce qu'on va écrire et ce qu'on va prôner effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer parce que je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas approfondi. Donc il vaut mieux pas parler quand on ne sait pas les dossiers ou qu'on ne les connaît pas parfaitement.
Et si jamais cette loi ne vous plaisait pas, est-ce que vous pourriez voter contre ?
Il n'y a pas de raison qu'elle ne me plaise pas, mais après, on peut toujours s'abstenir ou voter contre si tel est vraiment le cas et qu'une liberté très importante peut être atteinte. Ce que je n'espère pas.
Un autre sujet national, le défenseur des droits Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux de Jacques Chirac, a dénoncé cette semaine des atteintes aux droits fondamentaux des migrants à Calais, des atteintes, je cite, d'une exceptionnelle et inédite gravité. Il note que depuis l'arrivée du nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, un net durcissement de la répression à l'encontre des migrants qui tentent de passer en Angleterre, avec notamment la destruction systématique de leurs abris et l'interdiction faite aux associations de distribuer des repas. Est-ce que vous serez à l'Assemblée un défenseur des droits humains élémentaires ou est-ce que vous pensez qu'il faut se montrer implacable envers les migrants pour lutter contre l'immigration ?
Plusieurs points. Le premier, il faut absolument que l'Europe prenne en main ce dossier-là et permette aux États de bien réagir. Aujourd'hui, on a une problématique européenne sur ce point-là. Et par contre, on doit, sur le point de vue accueil des migrants, être à la fois strict et à la fois souple parce que ça reste quand même des personnes et il ne faut pas non plus l'oublier. Donc il y a une mesure à prendre et je pense que justement, peut-être que les députés européens prennent ça en main, mais il est nécessaire aujourd'hui que l'Europe travaille sur ce sujet. Là, on le voit depuis quelques mois, on en a en Corrèze. Il y a quand même une difficulté, non pas pour l'accueil, mais pour les maintenir et puis qu'ils continuent leur vie. Voilà. Donc c'est un domaine assez complexe. Je pense que sur ce domaine-là, il faut que l'Europe et la nation française se mettent d'accord sur les modalités. Et après, l'Europe en totalité devra définir les règles ou plutôt les approfondir pour l'accueil des migrants et qu'est-ce qu'ils définiront en termes de migrants aussi et comment ils les accueilleront. Parce que nous sommes en déficit, nous accueillons sans savoir et sans comment on peut les accueillir en fait. Sans savoir surtout ce qu'on va pouvoir faire ou ce qu'on va pouvoir leur donner. C'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous appelez être à la fois strict et souple ?
Strict, c'est qu'on sait très bien que la France ne pourra pas accueillir tout le monde parce qu'on a une difficulté d'accueil, on a même une difficulté de logement pour les propres Français qui sont sur notre territoire. Donc il faut être réaliste là-dessus. Et à la fois souple parce qu'ils fuient des pays ou ils fuient des environnements qui ne peuvent pas être stables pour eux non plus. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment à l'Europe aussi de travailler sur ce sujet-là. On en parle beaucoup. Mais vu qu'on a ouvert les frontières, il faut que l'Europe travaille sur ces sujets-là. L'Europe sociale.
Comme avec Bernard Combes, ma dernière question n'en sera pas une. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, moi, je présente une candidature effectivement de renouvellement, mais aussi une candidature d'expérience sur le territoire, puisque j'ai une forte connaissance de celui-ci depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, à la fois par mes fonctions et maintenant par mes mandats. Donc il faut aussi que la Corrèze soit dans la majorité présidentielle comme elle a toujours su le faire. Et c'est une nécessité pour les territoires ruraux, parce que les territoires ruraux seront mieux représentés au sein d'une assemblée et de la majorité présidentielle que si celle-ci allait représenter à côté de cette majorité-là. Donc en l'occurrence, je demande aux Corréziens de la première circonscription de voter pour Christophe Géréti, à la fois sur la nécessité d'avoir une majorité présidentielle et sur la volonté de renouveler les élus locaux et de leur apporter ce soutien-là au plus fort au deuxième tour des élections législatives.
Je ne peux pas m'empêcher de vous poser finalement une dernière question. Vous venez de dire que la Corrèze a toujours su être dans la majorité présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté opportuniste chez les Corréziens ?
Je suis un pur Corrézien, je suis né à Tulle, ça fait deux siècles que ma famille est sur Tulle et sur la Corrèze. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire opportuniste ? Quand on dit il est opportun, j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une maison, c'est aussi positif. Je crois que l'opportunisme fait partie de la vie et on a tous eu une opportunité à un moment donné pour travailler ou pour disposer de quelque chose. Donc effectivement, vous avez eu l'opportunité d'ouvrir une station à Meymac et c'est parfait. La preuve, je suis là. Donc c'est
bon savoir, oui. Effectivement, cette opportunité d'ouvrir un studio à Meymac nous permet de vous recevoir. Christophe Géréti, je rappelle que vous êtes candidat aux élections législatives pour La République En Marche sur la circonscription de Tulle-Ussel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à François-Xavier pour sa participation à la préparation de cet entretien. Rendez-vous ce dimanche à 20h pour connaître le résultat de ce second tour des élections législatives. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour un deuxième entretien avec cette fois Bernard Combes, candidat pour le Parti Socialiste.
Merci.